Boker Tov. Nous allons aujourd'hui parler de Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar. Il n'y a pas plus Mizmanour que ça. Rosh Chodesh Adar. Le cours que je vais donner est un cours qui est inspiré d'un cours qu'a donné mon maître, le Rav Moshe Shapira, il y a à peu près, il y a 3 ans exactement. Maintenant, on va expliquer un petit peu la problématique. Le mois de Hadar a une particularité, c'est qu'il est ce qu'on appelle, il y a le Hibour. Cette année, il y a 2 mois de Hadar. Sachez que d'après certains décisionnaires, je ne dis pas que tout le monde, mais d'après certains décisionnaires, même si quelqu'un est né Hadar Rishon, il doit faire sa bar mitzvah Hadar Sheni. Certains disent que même celui qui serait né Hadar Rishon devrait faire sa bar mitzvah Hadar Sheni.
Quand il y a un Hadar Sheni.
Quand il y a Hadar Sheni, évidemment. Pour vous dire à quel point le mois de Hadar, qui est le vrai mois de Hadar, c'est le deuxième mois, quoi. C'est ça le mois de Hadar. Le mois d'Hadar, c'est le deuxième mois. Mais cette particularité donc, d'un dédoublement du Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, est une anomalie, une particularité tout à fait exceptionnelle, incroyable, ce qu'on appelle le Hibour Hashana. Hibour, ça veut dire littéralement être enceinte, être Meuberet. Meuberet, c'est une femme qui est enceinte. C'est comme si l'année donnait un deuxième mois. S'il y avait un deuxième mois qui était engendré par le premier mois. Le mois de Hadar en donne un deuxième. Alors le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, il avait l'habitude de rappeler un Shem Ishmoel qui lui-même rappelle un autre source que dont j'ai oublié véritablement le nom, mais qui nous dit que le mois de Hadar, c'est Aleph, donc Dalet Resh. Et il y a ce qu'on appelle le mot Eder. Eder, Aleph Dalet Resh, c'est écrit de la même façon. Et il s'agit d'arbres, un type d'arbre, qui était planté dans des lieux où vous vouliez vraiment marquer votre propriété et vous vouliez la délimiter. Vous faisiez attention de prendre des arbres très droits, qui poussaient bien droit et assez puissants, assez résistants. Donc ce qu'on appelle celui qui veut donc marquer sa propriété, Ita Bahem Eder, qu'il y plante des arbres. Ces arbres s'appellent Hadar Eder, qui vont donc marquer sa propriété. Donc, c'est vraiment pas jamais un hasard dans la langue hébraïque qu'il y ait un mois du mois Hadar qui en fait qui est utilisé pour le mot Eder. Alors, je précise quand même, je vais quand même être précis. Le mot Hadar, vous ne le trouverez pas dans la Torah. Dans la Torah, vous n'avez pas le principe de nom de mois. Les noms des mois n'existent pas avant Megillat Esther. Évidemment, le mois d'Hadar, vous le trouverez dans Megillat Esther. Mais vous ne trouverez pas ça dans la Torah, dans les Chamisha Chumshe Torah. Dans les Chamisha Chumshe Torah, on parle du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois. Et je vous rappelle, je ne pense pas que vous l'avez oublié, parce que Parashat Bo, c'était il n'y a pas longtemps, à Chodesh HaRishon Azé, Rosh, c'était le premier, ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de Nissan, c'est le premier. C'est-à-dire que lorsqu'on compte les mois, le cycle mensuel, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Le premier jour de l'année, c'est le premier Tishri. Ce qui donne quelque chose de totalement, on va dire, plus que bizarre, plus que étonnant. C'est-à-dire que le premier jour de l'année ne tombe pas le premier mois de l'année. Vous avez un cycle des mois mensuels, un cycle... et vous avez un cycle du jour. Le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah. C'est le premier Tishri. Et le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Donc si on regarde le cycle des mois, nous sommes au dernier mois de l'année. Le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Ou, et vous verrez ça dans la Megillat Esther, Chodesh Shnemasar, le 12e mois, ou Chodesh Adar, c'est le mois de Adar. Sachant que le mot Adar est un mot perse. D'accord, c'est pas un mot hébraïque. D'accord, Hadar, c'est un mot perse. Donc en fait, on a adopté le terme utilisé par les Perses de l'époque et on l'a mis dans la Torah. C'est intéressant. C'est le 12e mois qui est le mois de Hadar. Voilà ce que vous verrez dans Megillat Esther. Vous ne trouverez pas ça dans les 5 livres, dans le Pentateuque, vous ne trouverez pas le mot Hadar. Donc lorsque je vous dis qu'il y a une analogie de terme entre le mot Hadar et le mot Eder, je prends quand même certaines précautions. en vous rappelant évidemment que le mot Adar n'est pas véritablement d'origine juive. C'est un mot d'origine perse. Donc il faut en être conscient. Comme d'ailleurs les autres noms des mois de l'année. D'accord ? Alors c'est vrai que le mot Nissan, il a un bon nom. D'accord ? Certains se sont inspirés pour faire des voitures. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise ? On peut faire ce qu'ils veulent. Mais Nissan, c'est d'origine perse également. Mais c'est vrai que ça tombe bien parce que c'est Ness, Mirak, Nissan. Bon. Mais c'est un mot, encore une fois, d'origine perse également. Iyar, Sivan, etc. Tout ça, ce sont des mots perses. C'est assez étonnant. Hein, que... Pourquoi ? Parce que la Torah, en fait, elle n'a pas voulu donner des noms au mois. Elle a voulu montrer que le mois référent, c'est le mois de Nissan. Donc c'est important de dire premier mois, deuxième mois, troisième mois, pour rappeler la priorité, le début de l'année en termes des mois, du mois de Nissan. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas Rosh Chodesh Nissan, ça on va se laisser pour Rosh Chodesh Nissan. Tant qu'on n'est pas Rosh Chodesh Nissan, on ne va pas parler de ce que représente le mois de Nissan, le premier mois, pourquoi le premier mois, pas le premier, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est de retenir ça. Adar, Eder, d'origine perse, et ce que je vais dire maintenant, est un Maharsha dans Sanhedrin Daf Yudbet. Sanhedrin Daf Yudbet, il y a un Maharsha, et ce Maharsha, je voudrais partager avec vous. Donc cette anomalie, 12 mois qui deviennent 13 mois, c'est quoi ce Bins ? Excusez-moi l'expression, c'est quand même bizarre quand même que cette notion de Hibour. De... Alors je vais vous demander de regarder, si vous avez devant vous un livre de Torah, prendre par exemple page 128. C'est dans Bereshit, c'est dans Chayesara. C'est à la fin de Chayesara. Vele toldot Ishmael ben Avraham, asher yelda Hagar amitzrit shifrat Sara l'Avraham. Ele shemot ben Ishmael bishmotam le toldotam. Je traduis. Et voici les descendants d'Ishmael, fils d'Avraham, que Hagar l'Égyptienne, servante d'Assara, a enfanté Avraham. Et voici les noms des fils d'Ishmael, selon leur nom dans l'ordre de leur naissance. Le premier-né d'Ishmael, Nevayot, Kedar, Abdel, Mivsan, Mishma, Douma, Massa, etc. Et le nom des... Combien ils sont ? Verset 16 du chapitre 25, vous avez donc le maftir de Chayesara, Elehem, Bene Ishmael, Vele, Shemotam, Vechatzrem, Ovetirotam, Shnem, Asar, Nesi'im, Leumotam. 12 princes. Ishmael a 12 princes, d'accord ? Pas plus. 12 et pas plus. Jusque-là, c'est simple. Mais c'est intéressant que la Torah trouve nécessaire d'appuyer sur le fait que Ishmael a 12 princes. Et puis le chiffre 12, il n'est pas évidemment un chiffre qui est pris au hasard. Je vous rappelle que le chiffre 12, c'est les 12 mois de l'année, mais c'est également les 12 heures de la journée. 12 heures de la journée,
c'était les 12 tribus.
Les 12 tribus d'Israël. Maintenant, justement, parlons des 12 tribus d'Israël. Alors, je suis maintenant dans le Maharsha de la page 12, ça n'occupe pas, la page 12 de Sanhedrin, vous ne pourrez pas oublier l'adresse. Alors, il nous fait référence à un autre pasouk. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on va un petit peu voyager dans le Chumashim, parce que c'est Shemot, donc fini Shemot, on va voyager un peu dans le Chumashim. Je vous invite à prendre Parashat Vayechi. Parashat Vayechi, c'est les brachot que Yaakov va faire à ses enfants, n'est-ce pas ? Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la bracha qu'il va donner à Yosef. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse. L'adresse, c'est page 298. Donc, c'est dans Vayechi, chapitre 49, verset 22. Ben porat Yosef, ben porat ale aïn, banot sa'ada ale shur, vaimaru varobu. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez complexe, mais ce que je vais dire ici, c'est ce qui est suit. Donc, on a une bénédiction dans laquelle on voit très clairement qu'on donne à Yosef un rôle tout à fait particulier. On nous parle de sa force, de sa domination, etc. Mais celui qui m'intéresse véritablement, la bracha que vous n'avez peut-être pas vue, mais qui est en fait avant, et celle que je voudrais qu'on lise ensemble, c'est à la page 292, au chapitre 48, verset 22. « Vani natati lecha shechem achad alachecha, ashalakar timiyad aimori becharbi ou bekashi. » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, cette phrase ? On va la traduire tout de suite. Donc c'est Yaakov qui s'adresse à Yosef. « Quant à moi, je t'ai donné shechem, une part de plus que tes frères, que j'ai prise de la main de l'Amoréen avec mon épée et mon arc. En fait, Shechem, c'est la ville de Shechem. La ville de Shechem, Naplouse en français. Mais il dit que Shechem, ça veut dire aussi une part, selon Rashi, selon le Targum aussi. Choulakhad yatir al-achach. Je t'ai donné une part en plus que tes frères. Donc Shechem, c'est la ville de Shechem. Et Shechem, ça veut dire une part. Yosef a droit à une part en plus. Page 292. Et donc, dans le chapitre 48, verset 22, on dit tout simplement que Yosef a une double part. D'où vient cette notion de double part ? Qui donne une double part ? Qui est à l'origine de cette histoire de double part ? D'où ça vient ? Ça ne doit pas vous étonner trop plus que ça, n'est-ce pas ? Vous avez quand même Parashat Kitetsé. Vous voyez ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on va voyager. Dans Parashat Kitetsé, on est vraiment dans la double part. De qui s'agit-il ? C'est à la page 1108, 1108, chapitre 21, le livre de Devarim, et verset 17, qui est à Bechor ben Asnoa Yakir, la tête l'eau, Pish Naim, Bechor Ashaim Matzelo, qui ou Reshitono, l'eau Mishpat Abechora. Je traduis. Dans le verset 17 du chapitre 21 du livre de Devarim, nous lisons en français, car c'est l'aîné, le fils de la femme haïe, qu'il reconnaîtra pour lui donner double part de tout ce qu'il trouvera chez lui, car c'est lui les prémices de sa vigueur première, c'est à lui que revient le droit d'aînesse. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Mishpat Abechora. La Torah nous dit que le premier-né a droit à une double part. N'est-ce pas ? Ça veut dire quoi une double part ? Ça veut dire que si par exemple vous avez un terrain qui vaut, je sais pas moi, 100 euros, une valeur de 100 euros, vous départagez ça, vous avez par exemple deux fils, parce que c'est les fils qui héritent, donc vous avez deux fils, vous ne partagez pas ça en deux, vous partagez ça en trois. Et le fils aîné, il prend deux tiers, et le fils cadet, un tiers. Ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Alors je vous rassure, aujourd'hui, ça se passe un peu autrement pour éviter les problèmes familiaux. Mais que vous sachiez que normalement, le premier-né a le droit à une double part. Et cette double part, Yosef l'a reçue, d'où l'origine de ses deux fils, Ephraïm et Menaché. Ben oui, Ephraïm et Menaché, c'est une anomalie quand même dans l'histoire des frères de Yosef. Il est le seul à avoir eu le mérite de voir sa part se dédoubler. En comment, elle se dédouble, puisqu'il y a deux fils qui sont éligibles. On n'a pas dit ça de Yehuda, ni de Reuven, ni de Shimon. Leurs fils, on ne les connaît pas. Enfin, on les connaît, mais ils ne sont pas éligibles. Alors que Yosef, lui, est éligible. Il a le droit à une double part. Donc c'est ça que nous dit ici le Maharsha. Kol ze Natan Yaakov le Yosef, shenema vanin natati lecha shechem echad. Ou le ze av she Ishmael, she shlo yud beet nesim, le umotam, ou be milchamotam, lifami menatsrim et es. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ishmael a 12 princes. En fait, Yaakov, il a 12 fils, 12 shvatim, mais 12 qui deviennent 13. Parce que si Yosef se dédouble, ben c'est plus 12, c'est 13. Et en fait, cette différence entre Ishmael et Yosef et Yaakov est une différence fondamentale, très importante, qui explique l'existence d'un deuxième mois de Hadar. Le deuxième mois de Hadar est là parce que, justement, le mois de Hadar est le mois du dédoublement, le mois de Yosef. Pourquoi je dis que c'est le mois de Yosef ? Parce que vous savez tous que Yosef est une beracha. Veidgu larov bekerevaretz. Dagim. Les poissons. Pourquoi les poissons ? Parce que Yosef, les poissons, ils sont sous l'eau. Donc personne n'a du mauvais œil sur les poissons. Personne ne voit ce qui se passe. Donc, ils sont protégés du mauvais œil. Ainsi, Yosef est protégé du mauvais œil. Et donc, nous savons tous que le mois de Hadar est le mois du poisson. Le signe astral du mois de Hadar est le signe des poissons. Donc, on a Yosef, Veyidgou Larov, donc il a la notion du poisson, Yosef. Il se dédouble, la notion de la multiplication, donc de la beracha, de la bénédiction, puisqu'il a un, c'est devenu deux. Et tout ça dans le mois de Hadar, qui est le mois de Yosef, des poissons. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de multiplication, de bénédiction, de dédoublement, qui est intrinsèque au mois de Hadar. Vous comprenez ? Voilà ce qu'il enseigne ici le Maharsha. Par contre, Yishmael, c'est 12 et pas plus. Mais pourquoi Yishmael, c'est 12 et pas plus? Il nous dit Bemala beyoter mi Yishmael sheyu yud gimel nesim al yedei Yosef shenechlak leshnaim. Vezehu sod haibur. C'est le secret du Hibur Hashana. C'est le dédoublement de Yosef. Sheyeh beshnat Yisrael yud gimel chodashim u gadol yoter mishnat Esav yud bet chodashim lachama ve'alpid varimene amar. Bon. Voilà ce qu'il nous dit en première partie. Alors, il explique là-bas une Gemara très 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 spéciale que je ne vais pas expliquer parce qu'elle est très très compliquée, mais ce serait peut-être une autre fois. Maintenant, c'est très intéressant de se rendre compte de plusieurs choses qu'il dit d'une façon allusive ou qu'il ne dit pas, mais que le Rav nous a expliqué, qui sont extraordinaires. Vous allez voir comment c'est... Donc, on a compris, Yosef, dédoublement, Shechem, une part en plus, Binyamin, Menaché, Ephraim, magnifique. Maintenant, on va comprendre que ce problématique-là de 12 ou 13, ce n'est pas un détail dans notre construction. Il faut savoir que 12 et 13, ça n'a rien à voir. Le Rav nous a dit comment ça se fait qu'à la fin du Seder, on dit « Echad mi yodea, shnai mi yodea ». À quoi on joue, franchement, Bémet? On est vraiment de tomber en enfance. Quand on est à la fin du Seder, on est tombé très bas, on commence à dire « Qui c'est 1, qui c'est 2, qui connaît 3, qui connaît 4 ?» Ça fait vraiment enfantin. Bon, ça met de l'ambiance, c'est sympathique, c'est mignon, mais quelle est l'idée qu'il y a derrière? Évidemment, c'est d'arriver au chiffre 13. C'est-à-dire que Echad mi yodea, c'est un moyen pour arriver au chiffre 13. C'est une volonté d'aller de 12 à 13 le soir du Seder. Or, le soir du Seder, c'est le mois de Nissan, et le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et que justement, on est en train de construire une construction en disant « Attention, on n'est pas comme Ishmael, on se n'est bloqué à 12. Nous, on est Israël, on arrive à 13. » Attention, ça fait toute la différence. La différence, vous la comprenez, c'est que 13, c'est la valeur numérique du mot « Echad ». Et justement, le mot « Echad », dit le Maharal, il est construit d'une façon très précise. Vous avez un Aleph, vous avez un Chet, et vous avez un Dalet. Faites le calcul, Chet c'est 8, Dalet c'est 4. Et justement, le Aleph qui est mis à part, c'est le 1 qui vient se rajouter au 12. Et pourquoi c'est composé de 8 et 4, le mot « Echad » Parce que Chet, c'est les 6 fils de Léa, ajouté aux 2 fils de Rachel, donc les femmes officielles, on va dire, Léa et Rachel, ça fait 8 enfants. Et les 4, c'est Bila et Zilpa, qui ont 4, chacune 2 fils, ça fait donc 4. 4 et 8, Chet et Dalet. Et puis le Aleph. Aleph, c'est en fait Yaakov, qui est le père de ses 12 enfants. Mais c'est également l'accession aux 13. La différence entre 12 et 13, ce n'est qu'un, mais ça change tout. Dit le Rav, écoutez bien pourquoi. Il dit qu'en fait, le soir du Seder, on va commencer, juste le lendemain, la Sphira des 50 jours, les comptes des 50 jours. Et 50, c'est valeur numérique Kol. Et ce que dit Yaakov, il dit Yeshli Kol. Et qu'est-ce que dit Yosef, Esav, il dit Yeshli Rav. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce que je vais dire maintenant. Parce que ça peut résumer toute notre problématique, notre regard qui est fondamentalement différent de ce que la rue, ici, juste à la sortie d'ici, il y a ce qu'on appelle la Défense, un des quartiers d'Europe, un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe, peut-être le plus grand quartier d'affaires d'Europe, dans lequel il y a la quintessence de ce qu'est Esav. La quintessence de ce qu'est Esav. Esav, c'est Yeshli Rav. C'est de dire aux gens, écoutez, le but, c'est d'avoir beaucoup. Donc, si tu as une société qui fait 1 milliard, il faut qu'elle fasse 2 milliards. Si elle fait 2 milliards, il faut qu'elle fasse 3. Et si Amazon qui fait, je ne sais pas combien de milliards, ben, il faut arriver à Amazon. C'est très clair, net. Combien tu vas? C'est pas combien, comment tu vas, c'est combien tu vas. C'est-à-dire, combien tu... Alors, c'est vrai que dans le pays anglo-saxon, c'est un peu différent. J'ai analysé, les pays anglo-saxons, ils ne sont pas en train de parler de combien tu as, mais combien tu es capable de réaliser, de produire. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de produire beaucoup d'argent? À la limite, vous gagnez beaucoup d'argent aux États-Unis, vous avez donné beaucoup à la Tzedaka, ils font des dons incroyables. Donc je dis, c'est des tzadikim mourir, on va peut-être les mettre au Panthéon, là. C'est des tzadikim, ils donnent tellement d'argent à la Tzedaka. Et en fait, leur motivation, c'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'être capable de produire beaucoup. C'est toujours dans la dimension du rav, du beaucoup. Qu'est-ce que dit Yaakov? Yeshli kol. Alors on peut comprendre ça d'une façon un peu, on va dire, à mode Maternelle, c'est Yeshlikol, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien, ma vie elle est belle, machin, Yeshlikol. Bon, c'est le tzaddik qui ne cherche pas les biens matériels, magnifique, mazitov. Ça, c'est l'explication de maternelle. Mais lorsqu'on construit, on grandit un peu plus, on a compris que le Yeshlikol, il y a une vraie philosophie de la vie. C'est pas que Yeshlikol, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est certainement vrai, cette lecture. Hein. Je ne suis pas en train de dire, mais j'ai juste que c'est un peu, encore une fois, un peu enfantin. Il y a quelque chose de robuste. Yeshlikol, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui est kolel. Klal, c'est quelque chose qui englobe. C'est, kol, c'est valeur numérique 50, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui englobe tout. C'est quelque chose qui représente un ensemble. C'est quelque chose qui est shalem. C'est-à-dire qu'en fait, la motivation d'un juif, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Ce n'est pas en cela qu'il se réalise en ayant beaucoup. C'est en ayant quelque chose de d'entier. Quelque chose qui crée un klal, quelque chose qui est... qui réunit tout, il se sent, en fait c'est ça notre invention du bonheur et de la réussite chez nous, c'est d'avoir une vie cohérente, une cohérence dans tous les domaines de la vie, dans tous les moments de notre vie, une cohérence qui fait dire à celui qui nous observerait, yesh lo kol, il a quelque chose de kolel, quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui est harmonieux, quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui réunit l'ensemble, yesh li kol. Et en fait, cette dimension-là se retrouve par le mot « echad ». « Echad », c'est un, c'est unique. Le premier jour de la création, « yesh yom echad ».« Echad », c'est quelque chose qui n'est pas le premier, mais qui est un. C'est quelque chose qui réunit toutes les disparités dans un seul élément. Quelque chose qui fait disparaître les différences et le chibour. Finalement, je deviens un. Un dans le sens... quelque chose qui n'est pas découpable en morceaux, quelque chose qui fait construit, qui crée un ensemble. Vous comprenez? C'est ce que vous écrivez en faisant le chiffre 10. En faisant le chiffre 10, vous faites 1 et un ensemble, le 0. En fait, vous créez une dimension du minyan. Le minyan, c'est 9. Oh là là, 9, c'est un problème, 9. On est 9 unités, 9 individualités. Et 10, on a créé quelque chose. Qui est un ensemble, une entité nouvelle, qui s'appelle le minyan. Pourtant, on est un peu plus d'individus, puisqu'on était hier 9, maintenant on est 10. Mais non, ce dixième, il a transformé le 9, les individualités, en klal. Kol, klal. Quelque chose. Vous savez que c'est la différence. Klal, ça veut dire un ensemble de gens, une communauté. Klal, c'est kol avec un dédoublement du lamed. Klal. Il y a Kahal avec un kouf, et Klal, c'est aussi une notion de Klal. Et c'est un dédoublement de la deuxième lettre, elle veut insister sur la dimension de la première. Ça veut dire que lorsqu'on rajoute une lettre, on veut insister sur la dimension de Kol. C'est vraiment quelque chose d'uni, quelque chose de cohérent, et qui crée une nouvelle dimension d'unité. Donc lorsque Yaakov dit Yeshli Kol, il explique une philosophie de vie. Il n'est pas en train de dire j'ai tout ce dont j'ai besoin seulement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Rav nous dit, le jour de Pessah, on commence les 12 mois de l'année et on commence les 50 jours du compte de Shavuot. Donc on réunit le 12 qui finalement va devenir 13, qui tend à devenir 13 en fait, et le 50 qui représente cette dimension d'unité et de klaliut, quelque chose qui englobe, quelque chose qui réunit. Maintenant, Ishmael ne peut pas. Ishmael, il est empêché. Pourquoi est-ce que Ishmael est empêché? Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il est... Comment c'est écrit dans les mots? C'est pour ça que je vous ai fait prendre le livre. C'est pas juste pour vous montrer le chiffre 12, sinon, franchement, vous n'aurez pas embêté pour regarder un chiffre. C'est parce que c'est écrit un mot bizarre. Un mot très bizarre que j'ai lu rapidement. Je me suis dit, peut-être quelqu'un va le relever. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, c'est écrit dans la page 128... Shnem Asar Nesiim Leumotam. 12 chefs pour leur peuple. Est-ce que vous trouvez vraiment que le mot Leumotam pour leur peuple est vraiment un mot important, indispensable? 12 princes, c'est que sans doute ils ont 12 princes, parce qu'il y a 12 peuples, non? A priori, bon, je trouve que. Mais peu importe si ce mot est en trop ou pas, ce mot Leumotam vient rappeler la notion de Ima. Umotam, il achète Ima, c'est-à-dire. Matrice, la mère. Ima. M, c'est la matrice et la mère. Par opposition au Av, Ishmael, son Yichus, comme il a pour nous, vous savez qu'on a parlé un long chiot dessus déjà, Ishmael, il revendique le droit d'aînesse, justement. Lui, il dit, moi, je suis l'aîné d'Abraham. Et nous, on lui a répondu, non, monsieur, tu es le fils de Hagar. Il dit, alors, mais Hagar, c'est la femme d'Abraham, on est bien d'accord. Il dit, non, 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 c'est pas la femme d'Abraham, c'est la servante de Sarah. Ah, d'accord. Or, le principe, c'est que lorsqu'on a une servante qui a un enfant, c'est le fils de qui? Le fils de la servante. Le fils de la servante, c'est le fils de la servante. C'est pas le fils de monsieur le serviteur ou le monsieur qui a vu une relation avec cette servante. C'est-à-dire, en fait, en hébreu, ça se dit « En lo yachas av ». Il n'a pas de relation filiale avec son père. Parce que le fils de la servante, il a une mère, mais il n'a pas de père. En tout cas, juridiquement parlant, il n'a pas de père. Il est le fils de la mère. Donc Ishmaël est 12 le Umotam, c'est-à-dire en l'ensemble de M, il est lié à la mère, il est en fait 12. Il est bloqué à 12, parce qu'il est lié à sa mère, c'est-à-dire Hagar. Par contre, nous, on est lié à Abraham, à Yitzhak. Donc nous, on passe de 12 à 13. Parce que justement, nous, on a la relation avec le père. Parce qu'on n'est pas le fils de la servante, on est fils de la femme légitime, Sarah. Vous comprenez ça? Vous allez voir que ça a une grande implication. Regardez la suite de l'histoire. Vous avez un livre que je vous recommande fortement de ne pas lire. Pourquoi ne pas le lire? Parce que vous n'allez rien y comprendre, et moi non plus. C'est un livre de Kabbalah écrit par Avraham Avinu, bel auteur. Il s'appelle le Sefer Yetzirah. Et dans le Sefer Yetzirah, il se demande le mois de Hadar. C'est quoi le mois de Hadar? C'est quoi cette question? C'est qu'en fait, chaque mois, il a une fonction, une forme de... Il y a des fois les sens, il y a les cinq sens qui sont... On a parlé par exemple au mois de Tammuz et de Av, on a relaissé à Réhouven et Shimon. Réhia, la vision, Shimon, le mois de Av, la Shmia, l'écoute. Alors quelle est la fonction humaine, c'est-à-dire notre type de réaction qui correspond au mois de Hadar? Réponse, le tzrok, le rire. Vous voyez ça dans le Sefer Yetzirah. Abraham Avinu, il écrit ça. La fonction du mois d'Adar, c'est Tzrok. En fait, ce n'est pas très étonnant, parce que vous savez que c'est pourri, mais qu'effectivement, on est dans la Simcha, etc. Sauf que...
C'est pas né au mois de Hadar.
Évidemment. Yitzhak n'est pas mort au mois d'Adar, et c'est tout simplement bizarre. Pourquoi est-ce qu'on met Yitzhak, Tzrok, dans le mois d'Adar? La réponse est très simple.
La joie du mois d'Adar.
Il y a deux situations dans la Torah de rire. D'abord, analysons. Qu'est-ce qui fait rire? Ce qui fait rire, c'est lorsqu'il y a une situation, vous racontez une histoire. Et il y a une chute qui est totalement inattendue. Donc il y a quelque chose qui vous choque. Vous dites, attendez, moi je m'attends à la suite d'une histoire, je la projette, je me dis, tiens, il va raconter ci, il va raconter ça, et puis tout d'un coup, vous rigolez. Vous voyez un monsieur, costume, cravate, super classe, nickel, machin, il marche dans la rue, il s'explose, il tombe, machin, vous rigolez. Franchement, il n'y a rien de rigolo de voir un pauvre monsieur qui est en train de se blesser, peut-être même, en tombant. Pourtant, rien quand je vous raconte, vous commencez à rire. Parce que vous voyez ce monsieur très, très classe, très machin, vous voyez comme ça marcher, vous dites, ah, celui-là, il va marcher, il va aller se rendre là-bas à la défense, pour se dire, au 100e étage, il va signer un gros contrat, il va prendre une grosse... Bref. Et vous le voyez, il s'explose, il tombe, il se salit, c'est de la catastrophe. Ça vous choque et vous riez, et vous allez rire. Il y a deux situations dans la Torah dont on parle et qui font rire. La naissance de Yitzhak, où c'est écrit explicitement dans la Torah, je ne vais pas encore une fois vous faire rechercher la place, mais vous le connaissez maintenant par cœur, le livre, c'est dans Vayera. Qu'est-ce que disent les gens lorsqu'ils entendent parler de la naissance de Yitzhak? Tout le monde rigole, dit « Ouh là là, mais c'est quoi ce truc bizarre là ?» À 99 ans, il a eu un fils, mais c'est tellement bizarre, ça n'existe pas, ça, c'est bizarre. Et quel âge elle avait la maman? Oh là là, 90 ans, oh là là, mais c'est quoi ce truc-là? Et tout le monde commence à rire, et ça fait un grand rire. Et donc, à ce moment-là, ils se disent, quel nom on va donner à notre fils? Notre fils va lui appeler Yitzhak. C'est normal, hein, avec le rire qu'il a engendré. Vatomer Sarah Tzrok Asali Elokim Kola Shomea Yitzhakli. Tous ceux qui vont entendre ça, ils vont rigoler. C'est Tzrok, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est chapitre 21, verset 6. Donc, il a engendré le rire parce qu'il a créé une situation choquante, étonnante, non prévisible. Ça, c'est la notion de Yitzhak. Et il y a une deuxième situation extrêmement rigolote, bizarre, étonnante, qui a créé le rire, c'est Haman, qui est en train de préparer la potence pour il pendre Mordechai. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il prépare dans les moindres détails se retourne contre lui. Et finalement, celui qui pensait pendre est lui-même pendu. Donc c'est très rigolo. C'est que là, celui qui était en train de préparer, on va dire, la destruction du peuple juif, finalement, nous, au contraire, va nous donner un grand boostage pour arriver à la construction du Beth Amikdash, etc. Bref, ces deux situations, eh bien, vous les retrouvez donc au mois d'Adar. Évidemment, c'est la chute de Haman, descendant d'Essav et de Amalek. C'est la chute d'Essav Amalek. Et dans ce mois-ci, il y a le tsrok, le rire, donc Yitzhak, la notion de Yitzhak qui apparaît. Yosef, parce que Yosef, c'est le mois des poissons, et que Yosef, ça se dédouble, et que le mois de Hadar se dédouble. Or, Yosef, c'est l'antidote d'Esav. Et l'empreuve en est la lecture de Pourim. À Pourim, on va dire quoi? Béchalach, à la fin, de quoi on parle? Yehoshua Binoun, qui va faire la guerre contre Amalek. Pourquoi est-ce que c'est Yehoshua Binoun? Parce que Yehoshua Binoun est descendant d'Ephraïm. Et pourquoi pas Moshe? Ben Moshe, c'est un Lévi. Mais pas bon, c'est Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils de Yosef. Yosef, c'est l'antidote de Esav. C'est intéressant. C'est qu'on retrouve dans le mois d'Adar des éléments intéressants qu'il faut maintenant essayer de bien intégrer. Vous avez compris, le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. On n'est pas habitué à ça, parce que pour nous, c'est Rosh Hashanah, le début d'année. Donc, on se dit, c'est Elul, le dernier mois de l'année. Non. Le dernier mois de l'année, en termes de mois, de cycle lunaire. Or, le cycle lunaire, c'est le cycle d'Ishmaël. Les Ishmaélim, jusqu'à aujourd'hui, ils fixent le ramadan jamais à la même date dans le calendrier. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas la référence soleil, solaire. Ils ont la référence lunaire uniquement. Les chrétiens, ils n'ont que la référence solaire. Et les juifs, ils passent de l'un à l'autre. On est mechaber, on réunit le soleil et la lune. Et à quel moment on les réunit? Ben, des fois en faisant 30 jours au lieu de 29 jours à la fin du mois, et surtout en ajoutant un mois tous les quelques années pour réunir et retrouver, relier finalement le cycle lunaire au cycle solaire. Or Ishmaël, monsieur Lune, parmi les non-juifs, monsieur Lune, il a 12 mois, pas plus, parce qu'il ne connaît pas un mois de plus. Mais nous qui nous relions au soleil, eh bien, nous rajoutons au 12e mois un 13e mois. Pour rejoindre qui? Ben, Esav, qui lui, il compte au niveau du soleil. Donc le lien entre Esav et Ishmaël se fait grâce au mois de Hadar, qui devient, entre guillemets, enceinte, qui donne un deuxième mois de Hadar, et qui finalement nous fait la liaison entre Esav et Ishmaël, entre la dimension solaire et lunaire. Vous allez me dire, bon, on s'en fout, tout ça, c'est que des problèmes de technique, d'organisation, de calcul, de calendrier. Franchement, est-ce que vraiment, monsieur le rabbin, vous pensez que c'est quelque chose qui est important dans notre vie tous les jours? Je réponds oui. Pourquoi je réponds oui? Parce que c'est un problème philosophique fondamental que je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec des comptes et des calculs, mais je suis en train de vous parler d'un problème philosophique fondamental, mais fondamental.
C'est quoi le lien entre... Pourquoi on doit faire le lien entre Ishmaël et...
Alors, on doit faire le lien entre Esav et Ishmaël. On est en train de relier... Esav et Ishmaël représentent deux forces. Ces deux forces, tu les as dit, toi, tes ancêtres, toi-même, tu étais présent, je me rappelle un peu ta tête là-bas. C'était avant Matan Torah, on se retrouvait quelques jours avant Matan Torah, on a dit Naase Venishma. T'as bien dit ça? Naase Venishma? Très bien. Tu t'en souviens. Tu as dit Naase Venishma, et en disant Naase, tu as fait référence à Esav, à Sia. Et en disant Nishma, tu as fait référence à Ishmaël, qui, comme son nom l'indique, c'est Shmia. C'est-à-dire que ces deux forces, on va dire, concrétisées par ces deux personnages. Esav, c'est un homme de réalisation, d'action. Ben, il suffit de regarder, comme je dis, la défense. C'est un homme de réalisation. Il fait des très belles choses. Il fait avancer, entre guillemets, le schmilblick. Il fait avancer les choses. Il bouge. D'ailleurs, même Ishmaël, lorsqu'il veut faire avancer et faire des forages là-bas dans ses forages, il appelle Esav. Monsieur Esav, monsieur Total, monsieur BP, monsieur Esso, je ne sais pas comment il s'appelle, tous les trucs. Exxon, vous venez s'il vous plaît, monsieur Esav, venez nous sortir le pétrole. Ça veut dire que la réalisation, l'action, c'est Esav. La chemise à l'écoute, c'est-à-dire ce lien avec Allah, avec la croyance, la foi, etc., c'est vraiment Ishmaël qui en parle tout le temps, de Allah, de l'écoute. C'est-à-dire pour ça qu'ils sont toujours au soleil, en train de prendre le café ou le thé. Ils entendent Allah, ils entendent la voix du ciel. Donc ils sont dans une dimension plutôt de passivité, mais d'écoute. Mais une écoute qui leur donne une certaine force, une certaine solidité quand même, dans une certaine façon. Une fragilité, une solidité en même temps. Ils ont cette foi qui les tient au corps, cette shmia, cette capacité d'écoute. Donc vous faites Na'aseh v'Nishma, vous réunissez Essa v'Ishmael. Lorsque vous faites le deuxième mois de Hadar, vous réunissez le soleil à la lune. Donc vous faites et comment vous y arrivez ? Par le mois de Hadar qui est un mois de tzrok, de rire. Intéressant. Le tzrok fait ce qu'on a dit d'après le Sefer Yetzirah, c'est le mois du tzrok. Le rire de Purim est un rire qui relie Yishmael à Esav. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la problématique qu'a celui qui entend, c'est qu'il y a des moments où il n'entend plus trop, quoi. Il dit Dieu, où est Dieu ? Où est Dieu ? C'est cette question qu'il a. Il est à l'écoute de Dieu, il dit Dieu, Dieu de partout, mais finalement il se prend des tréchotes. Il se prend quelques coups dans la figure, il se dit bon, finalement Dieu, franchement, je ne l'écoute plus, là, j'entends plus. Voilà, il y a des problèmes sur la ligne. Il y a des problèmes sur la ligne, là. Il y a des problèmes sur la ligne. Donc qu'est-ce qu'il se dit ? Bon, alors, très bien, je vais passer à autre chose. Eh bien, on lui dit non, apprends à rire comme les Juifs ont dû le faire au moment de Haman. Haman, qu'est-ce qu'ils se sont fait les Juifs ? Ils se sont dit tiens, ça passe pas trop bien. Il y a des gros problèmes, a priori, là. C'est la solution finale. Pour le 13 Adar, c'est prévu le 13 Adar, c'était comme ça que c'était prévu le 13 Adar, que tous les ennemis d'Israël allaient se débarrasser du peuple juif. C'était la fin du peuple juif. Donc les Juifs, a priori, ils sont pas très, très en forme. Donc quelle est la solution, a priori ? C'est de dire, bon, on va changer de religion, on va devenir chrétien, autre chose, ou perse. Et Mordechai dit, non, vous avez pas compris, là, c'est au contraire. C'est Dieu qui se cache, mais vous allez voir qu'il va y avoir un renversement, un bouleversement. Vous allez vous rendre compte que ce qui paraît être une horreur, une catastrophe, ça va s'avérer être le début d'une nouvelle ère. Effectivement, tout s'est transversé, tout s'est renversé, et tout ce qui paraissait être extrêmement négatif est devenu effectivement extrêmement positif. C'est devenu la fête de Purim, donc ce tirage au sort qui rappelle qu'en fait le monde est un peu une sorte de grand loto, mais en fait il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qu'on ne voit pas, etc. etc. Ce discours, vous le connaissez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette capacité de prendre la force des saves, une force qui est quand même une énergie puissante, une vraie force de réalisation, et cette force de shmia, d'écoute, c'est-à-dire de foi, qui anime Ishmael, se réalise totalement grâce à la synthèse qui s'appelle Hadar. Parce que Hadar, c'est justement le mois où on apprend à faire la synthèse entre Esav et Ishmael, entre Na'aseh et Nishma. C'est-à-dire, c'est un mois dans lequel où la shmia, l'écoute est difficile, parce qu'on a des problèmes de imuna, des problèmes de croyance, et puis finalement on se rend compte que ce qui paraissait être une mauvaise nouvelle devient une très bonne nouvelle. Ce qui paraissait être quelque chose a pris tout à fait notre tournure. Et donc finalement on retrouve notre énergie, et Esav tombe. Mais Esav qui tombe, c'est un Esav négatif. L'Esav, il a deux visages. Il a un visage négatif, un visage positif et constructif. Le visage négatif, c'est effectivement ce Yeshli Rav. Combien tu vas ? Combien tu pèses ? Combien tu possèdes ? Ah, j'ai beaucoup, je suis quelqu'un d'important. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas juif. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et il faut en sortir. Il faut sortir de cette logique. Nous, Yeshli Kol, on veut une cohérence, on veut quelque chose d'harmonieux dans notre vie. Que ce que nous sommes à la maison, nous le sommes à l'extérieur. Toho, que baro, la façon dont on est avec notre femme, on est avec tout le monde. Notre voix d'emploi employé, c'est quelqu'un de respectable, c'est pas quelqu'un qu'on écrase. C'est pas parce que j'ai besoin, j'ai une ambition, ben Yeshli Rav, il faut que j'ai beaucoup. Donc voilà, j'écœure tout le monde, je tourne tout le monde, je tue, je vole, je trie, j'escroque, je machin. L'important, c'est le but justifie les moyens. Non, ça c'est pas Yeshli Kol, il faut que je puisse être pris dans toutes les facettes de ma vie et qu'on me dise, ah celui-là, c'est cohérent. Il y a quelque chose, il y a clair, il y a quelque chose qui réunit toute sa vie. C'est de passer du 12 au 13. Pourquoi ? Parce que 12, c'est la multiplicité, mais 13, c'est le chiffre, c'est le mot Echad. Echad, c'est 1. Donc le soir du Seder, Echad, Miyodeach, Naï, Miyodeach, Trochard, Miyodeach, pour arriver à 13, parce qu'on va arriver au chiffre 13 absolument ce soir-là, pour rappeler qu'on est au début d'un cycle lunaire qui peut avoir 12 mois ou 13 mois, qui peut arriver du 12 au 13. Et passer du 12 au 13, c'est pas un détail. Je sais pas comment ça s'appelle en français exactement. Lorsque vous avez un cube et que vous voulez relier toutes les parties, toutes les côtés du cube, les différentes facettes et arêtes, vous avez, d'après Mme Dilorav, 12 options, 12 moyens pour relier toutes les ce qu'on appelle les 12 alarsonotes. C'est écrit dans la Kabbalah comme ça, il y a 12 tangents, 12 éléments, 12 traits qui relient un cube. Et en fait, c'est un cube donc a comme évidemment quatre côtés, le haut et le bas. Donc vous avez six côtés, six facettes, six faces. Et pour les relier, vous avez 12 éléments qui le...
Pardon ? Des diagonales.
12 diagonales. Ouais. Et il nous dit le Rav la chose suivante. Il nous dit que lorsqu'on passe de 12 à 13, c'est qu'on passe véritablement d'un monde, on va dire, matériel à un monde spirituel. En fait, c'est ça l'élément. C'est de passer d'une représentation cubique, une représentation purement matériel, à une dimension qui va au-delà. Quelque chose qui est echad, mais achet, qui réunit tout. Je vous ai souvent parlé de ça. Lorsque vous avez 12 heures dans la journée, un tzaddik, un juste, c'est quelqu'un que l'on peut photographier à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et on amène les photos et on lui demande, dites-moi, vous faites quoi là à ce moment-là ? Je mange. Ah, donc à ce moment-là, vous êtes en train de faire un grand kiff, hein ? Oui, je suis un grand kiff, mais en même temps, je sers à Kadosh Baruch Hu. Je suis sûr que dans le ciel, on va me récompenser pour votre, mon repas. Ah oui, quel rapport entre votre repas et le ciel ? Je mange ce qu'il faut, comme il faut, au bon moment, pour me donner des forces, pour servir mon Créateur. Donc le service de mon Créateur, c'est ce qui réunit mes 12 heures de la journée et de la nuit. On peut me photographier à n'importe quel moment. On dit, tiens, Yeshtikol, il y a quelque chose de cohérent, une cohérence dans ta vie. Je ne trouverai pas des moments où finalement il faut, attends s'il vous plaît, ça vous passez, c'est un film, si par exemple quelqu'un me filme, je dirais, vous passez ça, cette séquence, s'il vous plaît, vous coupez, séquence coupée. Ça c'est pas Yeshlikol, ça c'est passé à Rav, c'est-à-dire on est en train d'associer des morceaux de vie. Non, Yeshlikol c'est une cohérence dans sa vie, c'est de pouvoir réunir tout, ça c'est Yeshlikol. Or Kol c'est 50 et c'est le début du Pessah, on commence à compter 50 jours. On commence à compter 50 jours, on commence à compter 12 mois, mais les 12 mois deviennent 13. Parce que le but, on n'y arrive pas au 13 chaque année. Pourquoi on n'est pas au 13 chaque année ? Parce que tout simplement, on n'est pas à ce niveau-là. On tend vers Echad, mais on n'y est pas encore Echad. Et tant qu'il y a Esav et Ishmael qui sont là pour nous embêter, et leur force et leur philosophie qui est là pour nous embêter, on n'arrive pas à créer on n'arrive pas à dépasser cette problématique du 12 et du 13. Je vais commencer le cours en vous rappelant que le mot Adar, en citant leur petit truc, ils citaient souvent leur Shem Ishmael là-dessus, c'est les mêmes lettres que le mot Eder. Eder, c'est un arbre qui permettait de faire des limites. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un champ à l'époque, bon, c'était un peu plus compliqué, mais bon, on voulait mettre, c'était déjà l'époque où ils faisaient attention à l'espace, et à l'espace vert, etc. Ils disaient, au lieu de mettre des barrières comme ça, pas belles, machin, on va se mettre des arbres qui vont délimiter notre terrain. Alors comme ils ont ces arbres, des racines en plus qui descendent droites et qui sont bien droites, etc., ça fait parfaitement la clôture parfaite. C'est la clôture parfaite, c'est ça, Eder. Et en fait, celui qui a un champ, qui y plante un éder, c'est-à-dire, c'est une sorte d'élément qui lui permet de trouver un repère. C'est un repère. Le mois de Hadar, dans l'année, est un mois qui est comme un repère dans l'année. Il est délimité, comme il est le dernier mois de l'année. Donc il est censé faire ce qu'on appelle limiter une année, terminer, montrer des limites. Et ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans ce cours, si vous avez fait attention, vous avez parlé de Yosef qui se dédouble. Et la ville que nous avons mis en exergue, c'est Shrem. Shrem, c'est la ville dans laquelle Yosef a reçu une part en plus. Aujourd'hui encore, vous pouvez aller à Shrem. Enfin, je ne vous conseille pas d'y aller sans accompagnement militaire. Mais lorsque vous êtes là-bas et que vous êtes bien accompagné, il vaut mieux être très très bien accompagné, même très 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 bien accompagné, pour en sortir, etc. Vous avez le tombeau de Yosef, toujours à Shrem, incroyable. Natatil Chash Shechem Echad, c'est toujours là-bas, Yosef. Et c'est la part, effectivement, qui éveille énormément de convoitises, bizarrement, parce qu'en plus, la tombe de Yosef a été achetée, etc. Bon, c'est comme ça. Et donc, énormément de convoitises. Et c'est un endroit de tension. Parce que c'est l'endroit, en fait, quelque part, Yosef, avec sa dimension telle que je l'ai expliqué, représente cette capacité de dédoublement, c'est-à-dire de trouver l'élément qui fait passer de 12 à 13. Pourquoi, à votre avis, Yosef, il a cette force-là plus que n'importe quel autre de ses frères ? De passer du 12 à 13, on a expliqué ce que ça voulait dire avec longuement. Pourquoi Yosef, particulièrement, il a en lui les ingrédients qui lui permettent de passer du 12 à 13. Pas seulement parce qu'il s'oppose à Esav. C'est aussi parce que c'est celui qui, dans sa vie, justement, a été celui qui a été le plus sollicité par différents types de personnes. C'est-à-dire, en fait, il était un monsieur multicascadette. C'était monsieur qui était en même temps chez Pharaon, qui était en même temps esclave, qui était en même temps... voilà. Il a vécu différentes tribulations. Donc, il a toutes les raisons, ce Yosef, à se disperser, à se diluer. Or, la force de Yosef, c'est qu'il est resté Yosef. Vous savez quand est-ce qu'il est resté Yosef ? Eh bien, vous savez, je vous donne la dernière référence. avant de vous laisser rentrer chez vous, c'est que dans le livre de Shemot, au début, tout au début du livre de Shemot, il y a une phrase qui passe inaperçue, pas pour tout le monde, la preuve. Eh bien, et on nous dit la phrase suivante, c'est dans Rashi, c'est dans la page 312, et c'est dans le Rashi de la page 312, vous avez cette phrase. « Ve Yosef haya b'mitzrayim » Yosef était en Égypte. « Valo ubana vayu bichlal shivim » Pourtant, lui, il faisait déjà partie des 70. « Umaba lelamdenu » Qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre que Yosef était en Égypte ?« Kilo haynu yodim shuaya b'mitzrayim » Nous ne savions pas qu'il était en Égypte, demande Rashi. « Et là, le hodiacha tzidkato shel Yosef » C'est pour te faire connaître la tzidkut, c'est-à-dire la piété de Yosef. « Hu Yosef aroe et son aviv » Où Yosef Shehaya b'Mitzrayim vena Asamelech v'Omed b'Tzidko. C'est le même Yosef qui était berger, qui est devenu en Égypte, qui est venu en Égypte, qui est devenu le roi. V'Omed b'Tzidko. Il est toujours dans la stabilité. Il est toujours aussi tzadik. La cohérence. Yeshli Kol. La personnalité qui représente le mieux. Parce que les autres frères, ils ont aussi une cohérence, sauf qu'ils n'ont pas eu autant d'épreuves. Yosef, véritablement, il a été passé dans une situation extrêmement compliquée, de changement de lieu et de pérégrination compliquée. Et il a su rester le même Yosef, c'est-à-dire dans sa tzidkout, dans sa piété. C'est lui Yosef. Et comment le livre de Shemot commence? Avec cet homme-là, Yosef haya b'Mitzrayim. Comme pour nous dire que pour sortir de l'exil, ou pour résister à l'exil, on a besoin de garder cette dimension de Yosef. Or, le mois de Yosef, c'est les poissons. Yosef, c'est les poissons. Veyidgou, la robe, kavaretz. Or, nous sommes dans le mois des poissons, le mois de Hadar. Et ce mois de Yosef qui se dédouble est véritablement l'allusion au fait que Yosef va se dédoubler. Maintenant, Sodaibour, Neged, Zaro, Shel Yosef, Sheikale, Zaro, Shel Esav, Aliado, Veaziya, Kise, Veachem, Shalem, Bimera, Veyamenu, dit le Maharsha. Il termine comme ça ses propos en disant. Le secret de la Ibour, Ibour, c'est le rajout du mois, c'est par rapport à la descendance de Yosef. Shichle Zaro Shesav, il va détruire la descendance d'Esav. Qui va détruire la descendance d'Esav? C'est justement Yosef. C'est lui qui va être Mashiach ben Yosef qui va chasser Esav. Ve'az yakise v'Hashem Shalem. Et à ce moment-là, le trône et le nom d'Hashem sera entier, conféré, la fin de Beshalach, du fait qu'il y a Amalek, mon nom n'est pas entier, mon trône n'est pas entier. Ça veut dire que Yosef a cette capacité à remettre les choses en place, à chasser Esav, et il est justement vendu par les Ishmaélim. Très intéressant. Qui les a vendus? Il a vendu Yosef. C'est les Ishmaélim. Regardez là-bas, dans Parashat Vayeshev. C'est qui l'a vendu? C'est les Ishmaélim. Et qu'est-ce qu'il va détruire? C'est Esav. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver les solutions face à Ishmaël et face à Esav. Pourquoi? Parce que Yosef, il a cette, on va dire, cohérence, cette capacité de tout faire col, de faire un col, pas de faire rave, mais de faire col. Et les princes de Ishmaël sont 12, pas 13. Ils peuvent pas, ils culminent à 12, ils peuvent pas arriver à 13. 12, c'est la dispersion, 13, c'est l'unité. Donc rappelez-vous de ces différents messages que je vous donne, et je termine là-dessus. Si vous voulez arriver à résister à l'alliance Esav et Ishmaël, il faut qu'on soit bon dans Na'aseh v'Nishma, c'est-à-dire être dans une réalisation, une implication pratique, pas une religion dans le cœur et dans la tête, mais une religion qui est dans l'application pratique. J'étais en train de chercher des téfilines en Israël, et ils m'ont montré les différentes nouveautés technologiques dans les téfilines. Je me suis dit, oulala, c'est intéressant ça. Grâce aux avancées technologiques, on a aujourd'hui des téfilines d'une qualité qui n'ont jamais, jamais existé. Tellement elles sont, évidemment, on a des moyens techniques qui n'ont jamais eu. Donc on a des téfilines high level, vous avez des téfilines VIP, avec toute option. Pourtant, on garde toujours les lois, les règles n'ont pas changé. Même si on aurait pu aujourd'hui s'imaginer, par exemple, écrire des tefillines en fuchsia, en rose fuchsia et en truc. Non, c'est toujours du noir sur du blanc, ça ne va pas changer de la couleur, etc. Mais par contre, il y a effectivement une qualité au niveau du carré des tefillines, du noir des tefillines, de la résistance des bâtiments, la qualité des ritzot, même au niveau halachique. C'est incroyable ce qu'on arrive aujourd'hui à faire. Jamais on n'est arrivé à ce niveau-là de perfection technologique dans l'accomplissement des mitzvot. Alors on peut se dire, bon, ça y est, bon, c'est bien. Alors, sachant que c'est une bracha qu'on a dans cette génération, d'utiliser les réalisations techniques des Saves au service, justement, de la Torah. Un exemple, je suis enregistré sur Internet et des gens vont nous lire, nous écouter alors qu'ils ne sont pas ici. C'est un exemple de bonnes choses que Essa va réaliser, qu'on utilise et qu'on a tout à fait le droit et le devoir d'utiliser pour diffuser la Torah, par exemple. Et en même temps, ça, cette force d'Assia, il faut qu'on l'adopte dans un but positif. Attention aux dérives d'Essa, parce qu'effectivement, il y a des dangers. Et à l'inverse, pas l'inverse, il y a aussi la Shmia. Ishmael sans arrêt nous dit, mais Allah, Allah, mais respectez les lois de la Tzniut. Des gens sont revenus, on m'a dit qu'ils habitent à Dubaï, ou ils habitent dans les Émirats Unis, ou ils habitent aujourd'hui, il y a des Juifs qui habitent là-bas, vous savez qu'il y a des, même une synagogue. Voilà. Ils disent, mais c'est incroyable, là-bas dans la rue, on arrête les gens, parce que, des touristes, parce qu'ils ne sont pas habillés comme il faut. Bon, tu dis, c'est incroyable quand même cette image, en plus aujourd'hui c'est diffusé dans le monde entier. La Tzniut apprise par Ishmael. Alors évidemment, on sait bien que c'est un peu tordu, que c'est pas très... Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde, ce que dit Ishmael aussi, il a pas que des bêtises. Il dit pas que des bêtises, il dit des choses aussi intelligentes. Il dit, attention, vous êtes dans une dérive absolue, totale. Attention, il y a des limites, quoi. Arrêtez de vous laisser aller, quoi. Il y a des moments où vous laissez trop aller. Donc, attention. Donc, il faut pas écouter le Ishmael qui explose, qui tue, mais il faut écouter le Ishmael qui donne des leçons de morale, qui sont des fois, des leçons de morale, même s'il ne mérite pas de les donner, mais au moins, il faut les écouter quand même. Donc, ces leçons de morale nous disent, attention à des limites. Il y a des limites, il y a des choses qu'on ne fait plus, etc. Il y a des choses qui ont été dépassées et qui font que notre société, société immorale dans beaucoup de domaines. Donc, la moralité, la shmia d'Akadosh Baruch Hu, comme l'action, doivent être réunies pour faire du mois de Hadar un dédoublé. C'est pour ça que le mois d'Hadar, en fait, il y en a deux. Il faut réunir Essav et Ishmael. Il faut réunir les doublés. Il faut réunir Ephraim et Menaché. Ephraim, c'est Piria Verivia, c'est multiplication dans l'action. Et Menaché, c'est Sourmera, c'est se détacher du mal. Ishmael, sa force de Ishmael permet de nous détacher du mal. La force d'Essav nous permet d'agir. Essav, c'est l'action Naasé. Nishma, c'est écouter. Ah, écoute-moi, attention, ne fais pas. C'est-à-dire plutôt s'éloigner du mal. Sourmera va à Setov, c'est ça, Menaché et Ephraim. Ephraim, action, Menaché, c'est se rappeler de ce qui s'est passé dans la maison de son père. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui est, je ne vais pas analyser à fond le mot Menaché, mais sachez que c'est ça la conclusion de ce Dvar Torah, c'est Menaché, c'est Sourmera, Ephraim. Donc si on arrive à faire Naasé Venishma, à Sourmera va à Setov, et réunir le mois de Hadar avec le deuxième mois d'Hadar, on sera dans quelque chose de complet, de parfait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a 12 mois en général, 13 mois certains mois. Et donc, ce que je nous souhaite en ce Rosh Chodesh Hadar, bête, que ce Rosh Chodesh Hadar, bête, ça pour nous comme Eder, comme une sorte de lieu protégé qui nous permet d'appréhender le monde d'une façon sereine, en disant, il y a des menaces, il y a des difficultés, il y a des peurs. Mais le mois d'Hadar, c'est de pouvoir rire malgré les peurs. C'est-à-dire de se dire, de la même façon qu'on voyait le monde arriver vers une fin catastrophique, eh bien, Mordechai et Esther ont dit, non, stop, attention, il faut relire les choses, les événements autrement. Venons prier et nous allons transformer l'essai. Ça va se transformer en quelque chose de très positif. C'est à moi de grand optimisme. Et ce rire, en fait, c'est le rire du croyant. Un jour, le Rav Nachman de Breslav disait, il y avait un homme qui se trouvait dans une maison. Cette maison englobait toutes les maisons de sa ville. Et cette ville, elle englobait toutes les villes du monde. Mais en fait, cet homme, il était assis dans sa maison, il riait. Sous cette forme un peu lyrique et poétique, le Rav Nachman de Breslav veut nous dire tout simplement la chose suivante. La capacité de rire, pas le rire moqueur, pas le rire de l'idiot, le rire du croyant, qui est celui de Yitzhak, qui est celui d'Avraham qui rit, de Sarah qui rit. Ah bah, excusez-moi, pas la vache qui rit. Sarah, Avraham, et le rire des croyants, ça donne un Yitzhak, et Yitzhak, c'est justement le frère de Ishmael. Ishmael qui est Metzachek, il transforme le rire en quelque chose de négatif, de destructeur, d'immoral. Nous, on transforme le rire en quelque chose qui construit un peuple et qui permet de dire à la fin des temps à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, rions ensemble, allez, on prend un petit peu, et c'est-à-dire quoi? De prendre une distance des choses et voir les choses d'une autre façon et donc de transformer quelque chose qui paraît négatif en quelque chose de positif. Donc des parents âgés, Avraham et Sarah, ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ont un enfant. Tout le monde rigole en disant, mais c'est quoi? C'est bizarre. Et même Aman, il va tout détruire. Non, finalement, c'est Aman qui va être détruit, qui s'auto-détruit. Voilà un peu le résumé de notre shiur et que je nous souhaite à tous que Bezrat Hashem se réalise très bientôt dans tous les domaines de la vie. Exact. Rabbi Hanan Jamal.